L'événement de la Pentecôte, c'est le début d'une histoire, le début du temps de l'Église. On ne peut pas vraiment dire que l'Église a été fondée au jour de la Pentecôte, parce qu'on peut dire qu'elle a été fondée au pied de la croix, on peut dire qu'elle a été fondée au jour de la résurrection, on peut dire qu'elle a été fondée quand le Seigneur appelle les 12 apôtres, quand il appelle les disciples à le suivre. Il y a différentes étapes, mais il y a une fondation qui est une véritable lancement, comme une... Comme un véritable élan qui est pris, décisif, c'est celui du jour de la Pentecôte. Et le récit nous est rapporté, nous l'avons entendu, dans le livre des Actes des Apôtres, où nous voyons l'Esprit-Saint qui vient sur les apôtres, mais pas uniquement, aussi les disciples, ils étaient, nous dit les Actes des Apôtres, environ 120. Il y avait aussi des femmes, et parmi elles, il y avait Marie. La Vierge Marie, la mère de Jésus. Et la Vierge Marie, première parmi celles qui a accueilli vraiment le Saint-Esprit au jour de l'Annonciation, eh bien Marie, nous allons donc la fêter demain pour la première fois dans l'Église universelle, sous le titre de Marie, mère de l'Église justement. Parce que nous entrons dans le temps de l'Église, nous allons vivre ce temps désormais qui est le nôtre, qui est toujours le nôtre. Nous sommes dans ce temps de l'Église, et la question qui se pose à nous, c'est est-ce que nous, Église, nous vivons suffisamment de l'Esprit-Saint ? Ou est-ce que nous vivons comme une belle structure dans laquelle il y a des étapes que l'on franchit, on obtient un certain nombre de diplômes, d'entrées, on fait du catéchisme, on reçoit le baptême, on inscrit un registre, on se marie à l'Église, on inscrit sur un registre, etc., où on ferait des étapes, et puis finalement, un peu comme une appartenance à un groupe ou à un club, et on s'en resterait là. Et le danger, c'est que l'Église, de fait, en reste là. Il y a un auteur laïque récent, qui est prédicateur, et qui disait ça sous forme d'une boutade. Il s'appelle Nicole Baldacchino. Il disait ceci: « Si Dieu retirait l'Esprit-Saint du milieu de nous aujourd'hui, de notre Église, environ 95% de ce que nous faisons dans l'Église se poursuivrait. Et nous ne nous en apercevrions pas. Mais si Dieu avait enlevé l'Esprit-Saint dans la première communauté chrétienne, celle des Actes des Apôtres, environ 95% de ce qu'elle faisait aurait cessé immédiatement. » Et il commente: « Beaucoup regardent malheureusement encore l'Église comme le corps du Christ auquel l'Esprit-Saint serait rajouté un peu dessus, comme une aide, mais le rôle de l'Esprit-Saint est un rôle central. Il est vrai qu'aujourd'hui, les structures de l'Église, de notre Église, à travers ses paroisses, à travers ses communautés, à travers ses églises, les églises-bâtiments, eh bien, nous avons l'impression que ça roule, tout seul, un peu comme en roue libre. » Mais non, pour que l'Église joue son rôle dans notre monde, dans notre société, il faut qu'elle vive de l'Esprit-Saint. Il faut que 95%, voire plus, de toutes ses activités soient mues par l'Esprit-Saint. Il faut que l'Esprit-Saint soit le premier acteur, l'âme de l'Église, le moteur. Alors comment ? Eh bien, tout simplement, en faisant en sorte que nous-mêmes, en tant que baptisés, nous vivions de l'Esprit-Saint. L'Église vivra de l'Esprit-Saint si ses fidèles laïcs, ses consacrés, religieuses, quels que soient les états de vie, mariés, célibataires, les prêtres, les évêques, le pape, vivent sous la mouvance du Saint-Esprit. Se laisse toucher, mais pas uniquement, parce que ce n'est pas qu'une affaire de sensibilité, se laisse mouvoir par l'Esprit-Saint. Laisse l'Esprit-Saint agir. Alors, comment faire cela ? Il y a une image qui est assez belle. Vous savez qu'en hébreu, l'Esprit-Saint, on l'appelle Ruach. Et Ruach veut dire, puisque l'hébreu ne connaissait pas les termes abstraits, ils utilisent toujours des termes concrets. Et Ruach, c'est le souffle. L'Esprit-Saint, on peut le comparer à l'air. On ne le voit pas, pourtant on en a besoin pour vivre. arrêter de respirer pendant je ne sais pas combien de temps, et vous verrez que vous allez mourir non pas de soif ni de faim, mais mourir par manque d'air. Et donc ce qui est vrai pour la vie naturelle, eh bien la parole de Dieu, donc à travers ce terme, nous montre que c'est aussi vrai du Saint-Esprit. Il faut respirer le Saint-Esprit. Il faut aspirer, inspirer le Saint-Esprit et expirer le Saint-Esprit. Alors, c'est une recherche permanente pour nous chrétiens. La recherche du Saint-Esprit, de vivre du Saint-Esprit. Alors certes, nous le savons, nous pouvons vivre, biologiquement parlant, avec des très bonnes valeurs aussi, sans respirer le Saint-Esprit. Notre corps ne va pas s'arrêter. Pourtant, spirituellement, ce que saint Paul appelle l'homme nouveau, bien lui sera tout violé. Il ne va peut-être pas mourir complètement parce que Dieu arrive à faire survivre des choses étonnantes, mais il sera tout violé, incapable de se mouvoir, incapable d'agir réellement. Et donc, il nous faut inspirer le Saint-Esprit. Alors, évidemment, l'inspiration du Saint-Esprit, c'est à travers essentiellement la prière et le désir de vivre au quotidien avec l'Esprit-Saint, avec le Seigneur Esprit-Saint. Est-ce que nous avons parfois, est-ce que nous prenons parfois le réflexe de dire « Merci Saint-Esprit » comme à une personne? C'est une personne de la Trinité, comme Jésus, comme le Père, comme le Fils, comme le Père. Dire « Saint-Esprit, viens en moi ». D'inspirer le Saint-Esprit dans la prière, d'inspirer le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, de nous tourner vers le Saint-Esprit, la Vierge Marie peut nous y aider, tourner. Et quand nous expirons le Saint-Esprit, alors c'est comme ça que nous savons d'ailleurs si nous avons inspiré le Saint-Esprit, parce que quand on expire le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre vie, nos paroles, nos agir, tout ce que nous faisons sont mus par la foi, l'espérance, c'est-à-dire il peut bien arriver n'importe quoi, je crois que Dieu est le Sauveur, et donc finalement, rien ne peut m'arriver de vraiment grave. Et enfin, surtout, la charité. La charité, dans notre vie, est le signe que nous respirons le Saint-Esprit. Aussi, le Saint-Esprit, c'est très concret. Prier, c'est concret. Il faut prendre du temps pour cela. Si on ne prie pas, eh bien, c'est certain que le Saint-Esprit ne peut pas beaucoup circuler dans nos veines, dans nos poumons spirituels. Alors, il y a le temps de prière quotidienne qu'il faut prendre, se poser, ça vous apprendre à se poser suffisamment longtemps, quand c'est possible, puis aussi prier dans la vie quotidienne, prier sans cesse, dit saint Paul, c'est-à-dire inspirer le Saint-Esprit, se tourner vers lui, même si ce n'est pas psychologique, ce n'est pas simplement « j'y pense », c'est aussi « j'y pense », mais pas uniquement, c'est vraiment avoir ce petit plus qui fait que je ne suis jamais seul. Et je demande au Saint-Esprit de guider ma vie, d'orienter ma vie. Et puis, je disais, c'est très concret, parce que le résultat, on vérifie qu'on respire du Saint-Esprit quand on voit ce que l'on fait, quand on voit ce que l'on dit, quand on voit ce que l'on pense. Est-ce que j'agis un tant soit peu dans la charité? Est-ce que j'agis un tant soit peu dans la foi, dans l'espérance aussi, quoi qu'il arrive? Est-ce que je suis quelqu'un d'abandonné, de confiant en Dieu, etc.? Est-ce que dans mon agir, je ne cherche pas uniquement ce qui me fait du bien, ce que j'aime bien, égoïstement, mais est-ce que je suis dans la joie de servir et d'aimer mes frères et de pardonner à mes ennemis aussi? Enfin, je cherche tout au moins. Voilà. Vous avez entendu tout à l'heure dans la deuxième lecture, l'épître aux Galates, où le Seigneur nous dit dans cette épître, voici les fruits de l'Esprit Saint. Ce n'est pas les fruits humains. C'est des fruits surnaturels qui veut dire que c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand que les fruits humains, qui sont l'amour, donc la charité, ce dont je parlais à l'instant, la joie, fruit de l'esprit, la paix intérieure. Tant de gens cherchent la paix et ne la trouvent pas. La patience, la bonté, la bienveillance vis-à-vis de mes frères, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, demandons, frères et sœurs, le Saint-Esprit pour que notre Église soit renouvelée, qu'elle vive du Saint-Esprit, qu'elle se laisse guider par le Saint-Esprit. Le pape François nous y aide à travers ses paroles et à travers sa dernière exhortation sur la sainteté, par exemple. Demandons vraiment que nous vivions davantage du Saint-Esprit. C'est notre bonheur. C'est notre bonheur. Que nous inspirions le Saint-Esprit. Que nous expirions le Saint-Esprit. Et je veux terminer simplement par une petite prière du cardinal Mercier. Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore. Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi et console-moi. Dis-moi tout ce que je devrais faire et commande-moi de le faire. Je promets de me soumettre à tout ce que tu me demanderas et d'accepter tout ce que tu permettras qu'il m'arrive. Montre-moi seulement quelle est ta volonté. Amen.